la science CQFD, Natacha Triou.
De quoi est fait le monde ? Depuis l'Antiquité, les scientifiques se posent ces questions fondamentales. Le monde est-il particule ou champ ? Ou les deux à la fois ? À la question « de quoi sommes-nous faits ?», les biologistes vous répondront « de cellules ». Les chimistes ajouteront « des cellules elles-mêmes constituées de molécules et d'atomes ». Pour les physiciens, c'est une autre histoire. Comment saisir le réel dans sa substance ? Les choses sont-elles corpusculaires, faites d'éléments sous forme de particules, ou bien sont-elles ondulatoires, diffuses, dans des champs ? Après des décennies d'expérience, la question n'est toujours pas tranchée. Mais la question est-elle d'ailleurs bien posée ? Ondes, particules, le diable au corpuscule. Sébastien Descôtes-Genon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche CNRS au laboratoire de physique des deux infinis Irène Joliot-Curie de l'Université Paris-Saclay. Avec nous également Patrick Peter, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, physicien à l'Institut d'astrophysique de Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct des studios de France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez. En complément d'écoute, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter chaque jour pour notre live tweet où nous postons toutes les sources qui ont nourri cette émission. C'est dès maintenant à Science CQFD. Jusqu'à 17h, nous parlerons donc de cette question philosophico-physique sur la nature des champs et des particules, comment ces notions se sont posées historiquement et ont évolué grâce aux progrès techniques, aux améliorations des expériences et aux raffinements théoriques jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que sont les particules et les champs ? On commence par une tentative de définition des corpuscules en se plaçant sous les auspices de Gaston Bachelard. C'est notre archive du jour, 1948.
La science corpusculaire se donnera pour tâche d'étudier les phénomènes de la matière, de la lumière, de l'électricité, en s'appuyant sur des corpuscules aux propriétés très générales et aux propriétés très peu nombreuses. Les corpuscules actuellement envisagés par la science seront caractérisés par trois variables, par leur masse, leur charge électrique, et par un troisième caractère que nous voulons présenter dans la causerie d'aujourd'hui. Ce troisième caractère a reçu le nom de spin.
Dans notre causerie d'aujourd'hui, toujours un plaisir d'entendre Gaston Bachelard. Une réaction à ce qu'on vient d'entendre, Sébastien Descôtes-Genon ?
Ah ben c'est très agréable d'entendre une voix aussi auguste et aussi ancienne qui en fait définit de façon déjà très précise ce qu'on entend par corpuscule toujours maintenant, c'est toujours d'actualité. À la fois l'idée d'une démarche analytique, donc essayer de résoudre dans les corpuscules des éléments très très simples, l'ensemble des phénomènes physiques qu'on peut identifier, et puis le fait d'associer seulement quelques propriétés très simples, masse, charge électrique et spin, et là on va rencontrer deux notions et deux théories qu'on va certainement retrouver à de nombreuses reprises, à savoir la mécanique quantique et la relativité.
Et ça, en effet, c'est des notions qu'on va aborder tout au long de cette heure, au fur et à mesure. Je voudrais également votre réaction à cette archive, Patrick Peter.
Oui, c'est très amusant, effectivement, très intéressant de voir que notre concept de particules n'a pas énormément évolué. Et comme disait Sébastien, le lien avec la relativité est d'autant plus amusant que Bachelard définit ici la masse, la charge électrique et le spin, qui sont aussi les trois propriétés, les trois uniques propriétés d'un trou noir.
On y reviendra lui aussi. Alors pour commencer correctement cette émission, Sébastien Descôtes-Genon, on peut peut-être tenter de définir les concepts dont on parle, hein, particule, champ, de quoi on parle exactement, à commencer par la particule.
Alors particule, c'est quelque chose qui n'a aucune étendue physique, donc c'est un point pour tout ce qu'on peut en savoir. Donc on n'a pas réussi à le résoudre, ni en structure, ni en étendue. Par contre, évidemment, c'est quelque chose qui interagit avec son environnement suivant un certain nombre de forces d'interaction qui sont justement, pour reprendre ce que disait Bachelard, déterminées par un certain nombre de propriétés très simples. Par exemple, la charge électrique qui permet de déterminer comment cette particule va être sensible à l'interaction électromagnétique.
Patrick Peter.
Effectivement, une particule, c'est, de notre point de vue expérimental, même si je suis loin d'être un expérimentaliste, mais de notre point de vue, une particule, c'est quelque chose d'opérationnel, c'est-à-dire, en gros, c'est un clic dans un détecteur, ou plusieurs clics dans un détecteur, ou un point sur une image. Et à partir de là, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on arrive à reproduire une notion de champ lié à la particule quand on regarde plusieurs points, par exemple, qui apparaîtraient sur une image, et qui reproduisent une structure qui, elle, n'est pas une structure simple.
Alors on a souvent l'image aussi quand on parle de particules, d'images de billes, enfin c'est comme ça que sont représentées les particules, ça c'est une image plutôt désuète, Patrick Peter.
C'est une image très classique qui nous montre une particule se déplaçant à une vitesse déterminée, à une position déterminée. C'est ce que la mécanique quantique remet complètement en cause au début du XXe siècle. Et en fait, on peut espérer avoir encore une telle image. Il y a moyen de définir encore une trajectoire de particules, comme disait Sébastien, une particule totalement ponctuelle, mais dont les propriétés, elles, sont plutôt étendues.
Sébastien Descotes-Genoux.
Oui, effectivement. Ce qu'on va pouvoir appréhender, disons, de cette manière-là, c'est que au-delà de l'image vraiment déterministe qui existait avec la mécanique newtonienne et que tu viens d'évoquer, Patrick, eh bien, en fait, maintenant, on entre, grâce à la mécanique quantique, dans une vision un peu plus complexe de ce que signifie être une particule. On est toujours sur un objet ponctuel, mais ses propriétés, elles, sont loin d'être résumables à une approche purement déterministe. Je connais la vitesse, la position à un instant donné, je suis capable de déterminer l'ensemble de l'évolution de ma particule parce que je suis capable de déterminer en chaque point sa trajectoire.
Une particule, pour un physicien, c'est facile. On sait la définir une fois qu'on a donc un bip dans un dispositif. Mm-hmm. Pour le champ, à présent, Sébastien Descotes-Genoux, qu'est-ce qu'on peut donner une définition de ce concept?
Alors, on va rester pour l'instant dans la version classique, de façon à déjà introduire les idées. Donc un champ, en fait, c'est quelque chose qui est une quantité qui dépend du point, de l'espace et du temps où on est. Et en fait, l'ensemble de la collection de toutes ces informations va constituer le champ. Et à partir de ce moment-là, évidemment, quand c'est donné tout seul, c'est simplement un concept mathématique, mais à partir du moment où vous donnez des lois, des relations qui existent entre ces différents points de l'espace et du temps, vous pouvez commencer à avoir l'idée d'une évolution, c'est-à-dire de quelque chose, par exemple, qui peut se propager. Par exemple, si vous pensez à des vagues sur la mer, vous pouvez prendre la hauteur, qui va être une quantité à chaque endroit de cette mer, et ensuite vous pouvez décrire la manière dont, d'un instant à un autre, la hauteur va varier à différents points de l'espace et du temps. Et donc là, vous avez quelque part un champ, l'équivalent d'un champ, dans une vision très classique des choses.
Oui, ça c'est issu d'un concept classique, celui de la théorie de Maxwell.
Alors, la théorie de Maxwell, c'est un peu l'application de cette même idée, mais cette fois-ci pour des champs qui vont décrire l'interaction électrique et l'interaction magnétique, et qui vont permettre aussi de donner une vision de la lumière.
Patrick Peter.
Oui, moi j'aime bien une autre analogie qui est l'analogie des vagues. Eh bien, on a une analogie, quand on regarde à la télévision tous les soirs, la météo, on voit le champ de température partout, ainsi que les champs de vitesse, parce qu'un champ, ça peut être un point, la température, enfin une valeur en chaque point, mais ça peut être aussi un vecteur comme la vitesse. La vitesse, ça aussi, ça indique une direction et une force. Et donc, on peut voir dans une simulation météorologique, justement, une évolution d'un champ ou de plusieurs champs, justement, qui sont en interaction les uns avec les autres.
Ce qui est étonnant en vous écoutant, c'est qu'on a l'impression que le champ est beaucoup plus facile à définir qu'une particule, selon vous, Patrick Peter.
Ah, de ce point de vue-là, oui, au moins on en a une représentation graphique. Mais dès l'instant où on commence à aller, par exemple, si vous prenez la carte météo et que vous zoomez un tout petit peu dessus, et que vous zoomez, que vous continuez à zoomer, il y a un moment où vous apercevez que vous faisiez une approximation de champ, c'est ce qu'on appelle souvent une approximation de type champ moyen ou des choses comme ça, dans lequel la température, par exemple, la température, vous pensez pouvoir la définir en chaque point, mais la température, c'est un concept qui n'existe que de manière macroscopique. Donc il faut déjà que vous ayez un grand nombre de molécules pour définir un état thermique et donc une température. Donc dès l'instant que vous allez sur des beaucoup plus petites distances, vous ne pouvez plus définir. C'est pour ça que c'est une analogie. Par contre, les champs dont parlait Sébastien, les champs fondamentaux, eux, vous pouvez en principe descendre jusqu'à des échelles d'énergie, des échelles de distance beaucoup plus petites.
Oui, la lumière, par exemple, c'est un champ électromagnétique.
Oui, c'est ça, effectivement. C'est-à-dire que donc, ce que Maxwell a fait, c'est en 1865 de bâtir des équations qui en fait s'appuyaient sur un certain nombre de résultats d'études qui a été faites par un certain nombre de grands scientifiques comme Gauss, Faraday, Ampère, pour essayer d'unifier l'ensemble des phénomènes électriques et magnétiques qu'on était en train de découvrir et d'essayer de comprendre. Donc, pourquoi est-ce que, dans certaines conditions, deux particules chargées s'attirent? Comment est-ce qu'une particule qui se déplace, peut générer un champ magnétique qu'on peut ensuite déterminer et mesurer. Et donc, ces équations, en fait, associent à chaque point de l'espace et du temps deux champs, un champ électrique et un champ magnétique. Et les équations de Maxwell permettent d'expliquer comment ces deux champs peuvent évoluer de concert. Et certaines solutions, ce sont en fait des variations extrêmement simples, très belles, périodiques, qui sont en fait associées à la lumière. Et donc en fait, la façon dont évolue dans le temps cette variation du champ électrique et du champ magnétique vous donne une lumière d'une fréquence donnée, d'une énergie donnée, d'une longueur d'onde donnée. Donc avec toutes les couleurs du spectre associé pour ce qui est de la lumière visible.
Alors on parle des équations de Maxwell pour continuer notre causerie d'un point de vue historique. On va revenir un peu plus en arrière. De quoi la nature est faite, hein, de quoi est fait le monde, ces questions sont très anciennes, on se les pose même dès l'Antiquité, Sébastien Descôtes-Genoux.
Alors oui, bien sûr. Alors bon, il y a évidemment tout un tas de théories. Généralement, on remonte très facilement aux Grecs, puisque là, on a les écrits qui nous permettent d'appuyer un petit peu la discussion. La plupart des différentes versions de vision de la matière étaient toujours un peu dans cette démarche analytique. On essaye toujours de résumer la matière et la structure de la matière à des choses extrêmement simples, quelques constituants élémentaires. Beaucoup de choses ont été proposées. Comme les philosophes étaient assez peu intéressés par l'expérience, il y avait peu de contraintes et de contradictions. Et donc, parmi l'ensemble des éventails, on a évidemment Démocrite d'Abdère qui, lui, a quelque part, pour des raisons essentiellement philosophiques, arrive à une vision qui est celle d'atomes, donc de constituants élémentaires qui, à son niveau, sont les derniers éléments. On n'a pas de sous-structure à ce niveau-là, c'est le dernier élément avant rien. Donc toute la matière est faite de ces atomes, qui pour autant qu'ils sachent sont simplement des points, donc correspondent très très bien au corpuscule à cette époque. Évidemment, on a maintenant une vision de l'atome qui est très différente, mais dans cette vision-là de Démocrite, c'est effectivement ce qu'on voyait.
Patrick Peter.
Oui, en effet, c'est ce qu'on a appelé atome, quelque chose qui, en fait, voulait dire insécable, je crois, quelque chose comme ça. C'est ce qu'on apprend à l'école. En réalité, maintenant, on sait très bien que les atomes, ce à quoi on a attribué le terme d'atome, peut se diviser en sous-particules, en noyaux, avec des électrons, avec même le noyau lui-même est constitué de protons, de neutrons, etc. Donc, on n'a plus du tout cette approche-là. Et d'autant qu'il a fallu quelque chose comme 2500 ans pour passer à l'idée d'atome jusqu'à sa vérification théorique d'abord, essentiellement c'est essentiellement Einstein en 1905 et expérimental juste derrière avec le mouvement brownien et ces choses-là. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites là-dessus, mais ce qui est amusant, c'est que en fait, quand on met des collections d'atomes et qu'on les fait bouger, très rapidement, on a cette idée, comme l'idée du champ électromagnétique, que tout ça, ça va bouger, ça va se propager sous forme d'une onde, comme d'une onde sonore, comme d'une onde électromagnétique, comme ces choses-là. Et on voit souvent une approche ondulatoire qui émane d'une structure atomique, là encore, puisque c'est l'atome étant la base, on fabrique des ondes sur la base de l'atome. On pense maintenant d'une manière un peu opposée.
Alors dans cette histoire des sciences, on peut aussi parler du moment fondateur qui est la naissance de la théorie ondulatoire, avec l'étude du comportement et de la nature de la lumière. La lumière est-elle ondulatoire ou corpusculaire? C'était la question posée, Sébastien Descôtes-Genoux.
Oui, effectivement, il y a eu une controverse au XVIIe et au XVIIIe siècle. En particulier, il y avait Huygens d'un côté qui était fervent partisan de l'hypothèse ondulatoire et New York qui n'était pas forcément, qui était quelqu'un de très brillant mais parfois un petit peu difficile et retors, qui lui était plutôt du côté particule. Et en fait, beaucoup d'expériences d'optique avaient été menées sur la diffraction, la réfraction. Donc comment est-ce que la lumière change de comportement quand elle traverse la matière, par exemple du verre, avec des interprétations de part et d'autre. Et puis en 1801, il y a eu Young qui a proposé, en fait, qui a mis en évidence une expérience qui, à l'époque, semblait être la qualification définitive que c'était l'hypothèse ondulatoire qui était correcte. Donc elle est assez simple, je peux la décrire brièvement. Vous prenez d'abord une source lumineuse, vous mettez ensuite un écran dans lequel vous percez soit deux fentes, soit deux petits trous, un peu espacés, et puis vous regardez avec un écran qui est placé encore derrière les figures que la lumière fait une fois qu'elle est passée à travers ces deux fentes. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on voit des franges plus ou moins lumineuses, certains très sombres, en fait, lumineuses, sombres, lumineuses, sombres, lumineuses. On appelle ça des franges d'interférence. Et en fait, ça, c'est vu comme étant... Ça a été interprété comme étant la preuve que la lumière était bien une onde.
Oui, c'est que la lumière, la dualité de la lumière, c'est un cas d'école.
Oui, et d'ailleurs c'est amusant parce que Newton lui-même dans son livre Optics mentionne la possibilité qu'il y ait une composante lumineuse ondulatoire pardon et une composante particulière. Je vais y arriver. Et c'est dans une note en bas de page, il rajoute quelque chose comme ça. J'ignore si on peut attribuer l'intuition de la mécanique quantique à Isaac Newton, mais enfin bon, il y avait quelque chose comme ça d'amusant là-dedans. Oui, c'est vrai.
Alors cette expérience des fentes de Young au 19e siècle, c'est un des fondements de la remise en cause de la physique classique, Sébastien Descôtes-Jeune.
Alors à ce stade-là, c'est plutôt la confirmation que l'un des deux camps a gagné. Donc en fait là, on pense à ce moment-là qu'on a trouvé l'explication, parce que simplement on peut imaginer une expérience complètement équivalente, là encore avec mes fameuses vagues et mon étang. Imaginez que vous avez une source qui fait des petites vagues comme ça, qui passe à travers une digue avec deux trous. Vous avez à nouveau des vagues qui s'échappent et qui font justement ces figures, avec des vagues qui se compensent plus ou moins, qui font les figures d'interférence. En fait, ce qui s'est passé, c'est que peu de temps après, on s'est aperçu que cette vision-là avait aussi ses limites et qu'il y avait d'autres expériences que nous n'étions pas, enfin, à l'époque, ils n'étaient pas, en mesure d'expliquer avec cette vision ondulatoire. Il y a en particulier ce qu'on appelle le rayonnement de corps noir d'un côté et puis l'effet photoélectrique de l'autre qui ont remis en cause et qui ont effectivement, là, pour le coup, vous avez parfaitement raison, complètement fait trembler la maison physique et abouti à ce qu'on change, on soit obligé de changer vraiment de vision de la matière.
Comment la maison physique a tremblé ? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triot.
16h16 sur France Culture, le réel est-il particule ou champ ? Nous posons la question à nos deux invités, Sébastien Descôtes-Genon et Patrick Peter, avec qui nous remontons l'histoire des sciences et de la physique. Nous venons de parler de l'expérience, de la fameuse expérience des fentes d'Young qui permet de prouver la dualité de la nature de la lumière, à la fois corpusculaire et ondulatoire. On arrive à l'apport d'Einstein, Sébastien Descôtes-Genon.
Alors, un endroit où Einstein a été particulièrement pertinent, c'est en fait l'expérience de l'effet photoélectrique que j'ai mentionné. Mais juste avant, je vais revenir un petit peu sur l'expérience précédente, qui était l'expérience du rayonnement de corps noir, qui en fait a un peu placé les éléments mathématiques qu'ensuite Einstein a transformé en une réalité physique. Et en fait, c'est comme souvent avec Einstein, c'est cet élément-là qui est essentiel, c'est-à-dire s'apercevoir que ce qu'on pensait être des artifices mathématiques s'avère finalement être le soubassement d'une vraie réalité. Donc l'expérience du corps noir, du rayonnement de corps noir, en fait, eh bien, c'est un objet qui est opaque, qui récupère toute l'énergie qu'on lui envoie et qui est en équilibre, ce qu'on appelle équilibre thermodynamique, avec son environnement. Un exemple de ça, c'est un four qu'on peut chauffer avec un tout petit trou, donc qui est complètement fermé, avec un tout petit trou qui laisse échapper de la lumière, s'il remet de la lumière. Et donc, si vous chauffez, au bout d'un certain temps, vous chauffez à rouge, puis à blanc, et donc vous allez avoir de la lumière qui va sortir. En fait, c'est une lumière qui a plusieurs longueurs d'onde différentes, plusieurs couleurs à la fois, donc on parle de spectre, parce que ça évolue, c'est-à-dire qu'elle est plus ou moins intense, suivant la fréquence à laquelle on l'étudie. Et ce qui se passe, c'est que ce phénomène-là, on s'imagine bien qu'on peut faire l'expérience et que ça ne pose pas de problème. La difficulté, c'est qu'en fait, quand on essaye de l'expliquer et d'expliquer ce qui se passe en ayant une vision ondulatoire de la lumière, on aboutit à une catastrophe, littéralement, c'est comme ça que ça a été appelé, la catastrophe ultraviolette. Pourquoi ça ? Eh bien, parce qu'en fait, les équations vous indiquent que normalement, plus vous regardez cette lumière aux fréquences les plus élevées, plus vous devriez avoir de lumière qui s'échappe. Et donc, à partir de ce moment, évidemment, c'est pas physique, c'est impossible, mais les équations ne vous interdisent pas ça. Et donc, on s'aperçoit qu'en fait, la quantité d'énergie qui est émise via ce petit trou, quand on regarde des fréquences de plus en plus petites, donc depuis la lumière visible vers l'ultraviolet, et puis on continue à monter les rayons, etc., devrait être de plus en plus grande. Et donc là, ça n'est pas possible, simplement. Et Max Planck fait a recours à un artifice mathématique qui lui déplaît énormément. En fait, d'ailleurs, c'est un peu la malédiction de Max Planck d'avoir inventé la notion même de quanta alors que lui-même avait une horreur complète de ça. Il faut dire que beaucoup de physiciens qui étaient au tournant du XXe siècle avaient une vision qui était très classique des choses et ils étaient en train de devoir se prendre des murs petit à petit d'une nouvelle réalité. Évidemment, leur première réaction, c'était de reculer en horreur en disant « Non, mais c'est pas possible que la réalité soit comme ça. On a tout compris. Elle est parfaite. On a une intuition absolument parfaite des choses, ça n'est pas possible. » Donc ce qu'il a dit, c'est qu'en fait, les échanges qu'il y avait entre ce four et l'extérieur ne pouvaient pas avoir lieu sous la forme de quelque chose de continu, mais sous la forme de petits paquets qui devaient avoir une énergie donnée. Et en faisant cette simple modification-là, donc c'est des petits paquets de toute petite énergie, donc pour la plupart des phénomènes autour de nous, on ne voit pas cette discrétisation, le fait que c'est des éléments très petits. Mais pour cette expérience très particulière, ça a une modification complète du comportement de la théorie, et on aboutit à ce moment-là au fait que on reproduit très très bien l'expérience, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de catastrophe ultraviolette. Quand on va à des énergies de plus en plus élevées, à un moment donné, eh bien, il y a moins d'énergie qui est émise, et donc il y a une couleur favorite qui est celle du rayonnement de corps noir, mais absolument aucune incohérence.
Patrick Peter.
Alors d'abord, il faut voir, c'est amusant parce que un exemple typique de corps noir, c'est par exemple le Soleil. C'est assez contre-intuitif aussi, mais ou l'univers aussi d'ailleurs, indépendamment d'autres choses. Ensuite, après le corps noir, justement, comme disait Sébastien, Planck en fait introduit cette hypothèse qu'il n'aime pas du tout, qu'il accepte comme un artifice mathématique. Et puis pour lui, en gros, ça s'arrête là. Et Einstein, effectivement, rebondit là-dessus et il va faire... toujours en 1905, il fait tout en 1905, hein, c'est ce qu'on appelait l'année miracle pour lui. Il fait la même chose qu'il a fait en relativité, la relativité restreinte. Il se dit, on me dit d'un côté que la lumière a des propriétés de particules, et puis d'un autre côté, elle a des propriétés ondulatoires. Eh bien, je vais écrire les équations thermodynamiques décrivant un fluide de particules et un fluide ondulatoire en même temps. Je vais mélanger tout ça, et il fabrique comme ça l'effet photoélectrique, et il met en place, en gros, la véritable première théorie quantique.
Oui, alors cet article de 1905, Einstein dévoile le caractère quantifié de la lumière. Alors ça, je veux bien votre éclairage sur ce que c'est, le caractère quantifié de la lumière, Patrick Peter.
Eh bien en fait, c'est ce qui lui vaudra le prix Nobel. Hein. Il aurait pu en avoir au moins une dizaine dans toute sa carrière, mais enfin c'est cet article-là qui va lui donner le prix Nobel. Dedans, il explique, comme je vous disais, donc il y a une composante ondulatoire, donc il accepte cette composante ondulatoire, il en déduit un certain nombre de lois de fonctionnement de la température notamment, mais il associe à chaque quanta qu'avait introduit Planck une réelle particule qui a une énergie donnée, une quantité de mouvement donnée. Et avec tout ça, on peut mélanger les choses et on arrive justement à en utilisant cet effet qui déjà avait permis que le corps noir, permis d'expliquer pourquoi quand on allume un four, il n'explose pas instantanément. De la même manière, on arrive à comprendre que quand on envoie de la lumière sur par exemple des atomes, eh bien le courant électrique qui va être produit par cette lumière ne dépend pas exclusivement de l'intensité de la lumière, mais aussi de sa fréquence, de sa longueur d'onde. Et donc les particules sont d'autant plus énergétiques d'après lui que leur longueur d'onde est courte. Et quand on prend cette propriété-là en compte, eh bien on explique à peu près tout.
Sébastien Descotes-Genoux.
Oui, effectivement. Donc l'idée, c'est que quand on avait fait ces expériences où on met de la lumière... On éclaire par exemple des plaques métalliques pour voir un petit peu les électrons qui pouvaient être arrachés et donc qui pouvaient se déplacer ensuite. Donc on peut mesurer de cette manière-là le courant électrique. Effectivement, comme Patrick le dit, on s'est aperçu qu'il y avait un effet de seuil. C'est-à-dire que ça n'était pas seulement une question d'intensité, ce qui est un peu l'idée qu'on a quand on regarde la lumière comme une onde. C'est l'intensité qui va vous dire quelle est l'énergie qui est transmise par cette lumière et donc l'énergie qui peut être utilisée pour ensuite chasser les électrons hors de leurs atomes. Mais on s'est aperçu qu'en fait, il y avait aussi une notion de fréquence qui devait être suffisamment élevée pour pouvoir avoir cet effet. Et donc ça veut dire que ce ne sont pas que des propriétés globales de la lumière qui sont en jeu, mais il y a quelque chose de l'ordre de, à chaque coup, il faut qu'il y ait suffisamment d'énergie disponible. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve l'idée d'avoir un photon, donc une particule, qui a une certaine énergie donnée, qui là, pour le coup, même si c'est une image maintenant qu'on sait fausse, joue un peu au billard, c'est-à-dire va taper sur l'électron et le chasser, mais il faut que cette ce photon unique ait suffisamment d'énergie. Et donc à partir de ce moment-là, on retrouve la notion que, quelque part, derrière l'habillage ondulatoire, il y a aussi quelque chose qui correspond à des particules de lumière. Et donc on retombe à nouveau sur le problème initial, c'est-à-dire qu'après tout ce grand cercle que nous avons fait depuis les fentes de Young, ben, on est à nouveau très ennuyé, puisqu'on a à nouveau une lumière qui est onde et corpuscule.
Oui, on est, et puis là, dans ce contexte, on est quand même au début du XXe siècle. C'est l'époque, comme vous avez dit, hein, où émergent des travaux sur le modèle de l'atome, ses constituants, et aussi un peu plus tard, dans la décennie 1920, que se développe hein, pleinement la mécanique quantique. Et là encore, deuxième bouleversement dans la compréhension de la nature.
Oui, alors effectivement, quelque part, c'est l'idée qu'on va devoir laisser de côté, comme Patrick le disait tout à l'heure, un certain nombre d'aspects déterministes, que même si on est face à des éléments qu'on peut considérer toujours comme des corpuscules, hein, l'électron, il n'a pas changé, on a toujours l'idée qu'il n'y a pas d'étendue, qu'il n'y a pas de sous-structure, eh bien, certaines de ces propriétés d'interaction vont, elles, devenir non plus déterministes, mais probabilistes. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on n'a plus la certitude que l'électron est en un point systématiquement, on va devoir commencer à considérer qu'il y a une probabilité de présence qui peut évidemment être plus ou moins importante. Et évidemment, quand on est en train de parler d'électrons autour d'un atome, on se doute bien qu'à une certaine distance, la probabilité est maximum. Donc ça correspond, vu de très loin, à l'image classique, c'est-à-dire d'avoir des électrons qui tournent à une distance, à un rayon bien déterminé autour de l'atome. Mais en fait, quand on commence à se rapprocher, ça devient beaucoup plus flou. Ça devient des propriétés qui deviennent un peu des propriétés globales. Et on est obligé de changer la manière dont on considère à la fois l'évolution de cette amplitude de probabilité et aussi comment est-ce qu'on va représenter le fait de mesurer ces propriétés derrière.
Oui, c'est qu'en mécanique quantique, l'idée centrale, c'est le principe de superposition, le principe de superposition des états. Et aussi, l'autre point très important, c'est que en mécanique quantique, le hasard intervient dans les mesures, ce qu'on appelle d'ailleurs l'indéterminisme de la mesure, Patrick Pétain.
Oui, le hasard intervient en effet partout et on a remplacé maintenant, on a fait intervenir une nouvelle onde. En fait, on parlait de la lumière dont on parlait des propriétés corpusculaires, mais on s'aperçoit assez rapidement, donc en effet au début des années 20, qu'il faut aussi associer une onde aux particules. Ça, c'est proposé initialement, évidemment, par les travaux de De Broglie, hein, l'onde de Broglie. Les choses qui est vérifiée en 1927 par Davidson et Germer qui reprennent en gros l'expérience des frange de Young, mais pour des électrons. Donc on retrouve la même figure d'interférence, mais cette fois-ci pour des électrons, pour des particules qu'on espérait être des vraies particules simples. Donc on trouve une nouvelle onde chez eux. Et cette onde, c'est justement maintenant ce qu'on appelle une onde de probabilité, en fait. Enfin, une amplitude de probabilité, mais enfin, c'est ce qu'on appelle la fonction d'onde. Je ne sais pas trop pourquoi ça s'appelle comme ça d'ailleurs, mais c'est assez curieux comme nom. Mais en tout cas, elle a des propriétés vraiment ondulatoires et surtout, on peut avoir une onde puis une autre onde et les additionner et ça reste toujours une solution possible. Ça reste toujours un cas physiquement acceptable. Et c'est comme ça qu'on arrive précisément à faire des oscillations et donc des figures d'interférence entre des objets qui sont des particules. Et toujours en 1927 d'ailleurs, on a ce fameux congrès, le congrès Solvay à Bruxelles en 1927, au cours duquel seront discutées énormément de choses, mais un des points majeurs de ce congrès, quand on lit les comptes rendus du congrès, c'est la vision qu'en propose De Broglie, où De Broglie propose qu'il existe une onde, réellement, et c'est une onde qui va piloter les particules, il appelle ça la théorie de l'onde pilote, qui pilote les particules, et donc on pense maintenant qu'effectivement on peut considérer que l'onde contient certaines des propriétés, l'onde de probabilité contient certaines des propriétés, comme par exemple la charge électrique, et la particule elle-même que vous allez voir faire clic dans votre détecteur ou faire une petite lumière sur votre écran, cette particule peut être décrite comme étant guidée par cette onde de probabilité.
Sébastien Descotes-Genon, hein, sur la dualité onde-corpuscule selon De Broglie.
Ah, ça a été une question qui a été assez disputée, il faut bien le dire ce qu'il y a, mais qui a permis aussi de se rapprocher un petit peu de la notion qu'en fait on était sur, non pas une dualité, mais deux aspects d'une même réalité, en fait. Et donc, quelque part, d'essayer un peu de dépasser cette notion qu'il y a l'un ou l'autre et que de toute façon, ce sont des choix qui sont exclusifs. Et en fait, on est en train d'entrer, et on continuera au cours de la discussion, à voir que on essaye plutôt maintenant d'accommoder ces deux réalités et qu'en fait, c'est seulement parce que l'on fait intervenir ces objets dans des circonstances différentes, à des énergies différentes, à des pouvoirs de résolution différents, et dans des états de préparation différents, qu'on va plutôt voir apparaître des caractéristiques corpusculaires ou des caractéristiques ondulatoires.
Vous voulez dire aussi que le terme lui-même, quand on parle de dualité onde-corpuscule, dualité, c'est assez contradictoire finalement.
Oui. Et ça, quelque part, ça a permis aussi de beaucoup réfléchir sur les aspects plus presque philosophiques de la mécanique quantique. Parce qu'on est, et ça n'est pas le seul endroit d'ailleurs de la mécanique quantique, où on est en butte à un certain nombre d'incompréhensions parce que l'intuition classique est clairement mise en défaut. L'intérêt, quelque part, et c'est pour ça que c'est heureux en physique, c'est que on a une intuition classique qui peut être mise en défaut, mais on a l'expérience, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, qui permet de vérifier que, eh bien oui, on est très très perturbé de savoir que l'électron peut avoir un comportement ondulatoire, mais de fait, quand on fait la mesure, il l'a.
Patrick Pétain.
Oui, tout à fait. Et puis on peut faire répéter ce genre de mesures et puis se poser des questions de plus en plus précises. On y arrive d'ailleurs maintenant, alors il faudrait faire toute une émission là-dessus, mais on arrive maintenant par exemple à mettre en évidence où sont localisés certains atomes, à les voir, à les photographier, enfin depuis quelques années maintenant, mais bon, vous savez peut-être c'est un peu la base de ce qu'on utilise pour faire des ordinateurs quantiques. Donc on arrive à voir des atomes, à les localiser de manière très très précise et en même temps d'utiliser leurs propriétés quantiques d'interférence. Et donc, alors même qu'on les voit comme des particules, on sait que ce sont des ondes et on les voit aussi, on s'en sert comme calculateur grâce au fait que ce sont des ondes.
Alors là, je fais un petit saut dans le temps, mais il y a eu des travaux plus récents sur la lumière, notamment ceux d'Alain Aspect, qui montrent que la lumière pourrait être ni ondulatoire, ni corpusculaire, mais autre chose, plus d'ondes, plus de corpuscules, mais un nouveau genre de particules, le quanton.
Alors, quelque part, c'est une manière de désigner la réalité qu'on n'a pas réussi à résoudre d'un côté ou de l'autre. Et en fait, lorsqu'on est en train de parler des expériences d'Alain Aspect, c'est exactement le fait de constater de façon opérationnelle, de poser la question non plus en termes métaphysiques ou philosophiques ou épistémologiques comme vous voulez, mais vraiment de se poser la question, bon, prenons au sérieux le fait que la lumière, c'est bien quelque chose qui a à la fois des propriétés ondulatoire et corpusculaire, et que le soubassement y est bien quantique. Donc à partir de ce moment-là, il y a certaines propriétés à la fois de superposition, le fait que plusieurs solutions peuvent être mises ensemble de façon à être toujours des solutions acceptables. Donc on peut préparer un système quantique dans cet état superposé de différentes solutions, et de garder ce qu'on appelle l'intrication, la mémoire du fait qu'à un moment donné, deux photons, par exemple, étaient liés au moment de leur émission, et de faire le test, de vérifier que c'est bien un état acceptable physiquement, contrairement à l'intuition classique.
Patrick Pétain.
C'est d'ailleurs une approche assez amusante, parce que, bon, là encore, au risque de passer pour monomaniaque, c'est encore une idée originellement due à Einstein, en 1935 cette fois-ci, pas 1905, 1935, donc avec un Podolsky et Rosen, où il écrit justement cet article qui va induire l'intrication, qui est de dire que les particules, une fois qu'elles ont interagi, on peut mesurer certaines des propriétés aussi loin qu'on veut. Une fois que les deux particules sont très loin l'une de l'autre, on peut mesurer une propriété sur l'une des particules, l'autre propriété sur l'autre des particules, et comme on suppose classiquement qu'elles n'ont plus interagi, alors on peut en déduire toutes les propriétés de tout le système. Or, la mécanique quantique, de par son aspect ondulatoire, nous dit, non, il doit y avoir des interférences, on peut pas tout mesurer comme ça, c'est pas possible. Et Einstein en déduit que la mécanique quantique doit être incomplète, mais d'autres gens se disent, peut-être que non, peut-être que ça induit d'autres choses. C'est ce que fait Bell dans les années 60, John Bell, qui est un physicien irlandais, si mes souvenirs sont bons, qui travaille au CERN à l'époque et qui écrit ce fameux article sur les inégalités de Bell. Ces inégalités de Bell on démontre que la mécanique quantique ne doit pas les respecter, et c'est ce que Alain Aspect démontre expérimentalement. Je crois que c'est en 1982.
Voilà. L'expérience d'Orsay, en effet. Je vous invite, chers auditeurs, chères auditrices, à écouter l'entretien que nous avons fait avec Alain Aspect, qui nous raconte également cette histoire des sciences. Nous, on continue notre histoire des sciences entre ondes et particules, champs. On revient après cette pause musicale. Thank you.
to be, be, be aware.
Floyd, Let There Be More Light à 16h36 sur France Culture. Nous avons parlé de la dualité onde-corpuscule de la lumière avec nos deux invités du jour, Sébastien Descotes-Genon, directeur de recherche CNRS au laboratoire de physique des deux infinis Irène Joliot-Curie de l'Université Paris-Saclay, et avec Patrick Peter, directeur de recherche au CNRS, physicien à l'Institut d'astrophysique de Paris. La distinction entre particules et champs est-elle artificielle ou bien sont-elles deux visions complémentaires de la réalité? Poursuivons cette histoire de la physique avec la théorie quantique des champs. Sébastien Descotes-Genon, on peut dire que la théorie quantique des champs est aujourd'hui un des piliers conceptuels de la description physique de l'univers.
Alors oui, effectivement, c'est en fait l'outil mathématique essentiel pour décrire l'infiniment petit. En fait, actuellement, les théories qu'on a concernant l'infiniment petit, et donc la vision la plus aboutie, qui est le modèle standard de la physique des particules, se base sur cette notion de champ quantique. Et en fait, l'idée, c'est que ces champs, donc là encore, sont des objets qui ont des propriétés à tout point de l'espace et du temps, mais en fait, leur particularité, je dirais, d'une certaine manière, c'est de dire que si vous fournissez suffisamment d'énergie à ces objets, vous les excitez, eh bien, l'excitation que vous allez avoir, ça va correspondre à une particule. Donc en fait, les particules sont une manifestation du fait qu'on a fourni de l'énergie à un champ quantique et que celui-ci a répondu sous la forme d'une excitation. Alors, si vous faites une excitation ponctuelle, vous allez avoir une particule, mais vous pouvez imaginer faire des excitations plus complexes qui vont avoir un aspect plus ondulatoire. Et donc de cette manière-là, grâce à cet outil qu'est le champ quantique, on est en mesure de retrouver un certain nombre de propriétés auxquelles on a déjà fait allusion concernant la mécanique quantique, mais cette fois-ci en donnant une description plus cohérente et donc un certain nombre d'hypothèses ad hoc qu'on avait dans la description qu'on faisait d'un certain nombre d'expériences quantiques deviennent plus, je dirais pas simples, mais enfin en tout cas plus explicites.
Patrick Peter, sur ces particules qui seraient plutôt des excitations d'un champ quantique.
Oui, en fait, c'est exactement ça. Une particule est exactement une excitation d'un champ. C'est comme ça qu'on la décrit mathématiquement, en utilisant les mêmes principes de décomposition qui avaient déjà été inventés par Fourier, je crois que ça doit être au 19e siècle, où on décompose juste tout champ quelconque, de la même manière qu'on décompose le mouvement d'une corde de guitare entre une fondamentale puis des harmoniques. C'est exactement le même genre de mode, de description en termes de mode, qu'on va faire sur un champ quelconque. Et sur ce champ quelconque, une fois qu'on aura décrit ces modes-là, et bien, il se trouve que ce sont ces modes-là qui vont interagir avec les détecteurs de particules. Et là, je reviens encore à ce que je disais tout à l'heure, que cette fois-ci, de manière opérationnelle, même si on a un champ qui est décrit partout dans l'univers, ce qu'on voit dans notre détecteur, ce qu'on appelle une particule, c'est purement opérationnellement, c'est quelque chose qui fait clic dans le détecteur.
On en revient en effet.
Ou vous voyez une trajectoire dans le détecteur.
Ces mesures. La théorie quantique des champs, c'est une théorie qui a été élaborée entre la fin des années 20 et le début des années 50. On peut faire un point aussi sur le modèle standard qui, lui, était élaboré au début des années 70. Et ce modèle standard de la physique des particules, c'est ce qui nous aide le mieux aujourd'hui à comprendre la façon dont les 12 particules fondamentales et les 4 forces fondamentales sont reliées entre elles, Sébastien Descotes-Genon.
Alors presque, en fait, parce qu'il n'y en a que 3, qui sont, 3 forces fondamentales qui sont décrites. La gravitation est laissée de côté, on la laisse parce que ça
pose... C'est celle qui cloche.
Voilà, absolument. Parce qu'en fait, la théorie quantique des champs, c'est lorsque l'on met ensemble la mécanique quantique que nous avons déjà abordée, et aussi la relativité dans ce qu'on appelle la relativité restreinte. Donc on n'est pas en train d'essayer d'expliquer la gravitation, ça c'est le domaine de la relativité générale. On est simplement, et c'est déjà bien assez compliqué, en train de se poser la question, que se passe-t-il quand des objets commencent à se rapprocher de la vitesse de la lumière, donc ils deviennent relativistes. Et donc la relativité restreinte décrit les manières dont la mécanique newtonienne va être modifiée, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? Eh bien le fait que la relation qui existe entre la vitesse et l'énergie devient différente, qu'on a une vitesse limite qui est la vitesse de la lumière qu'on ne peut pas dépasser, même si on fournit plus d'énergie à nos particules. Et en fait, la question s'est posée parce que dans la pratique, lorsqu'on a commencé expérimentalement à regarder la matière à des distances de plus en plus petites, on a besoin d'avoir des pouvoirs de résolution de plus en plus fins. Ça nécessite d'aller utiliser des sondes, ça peut être la lumière, ça peut être des particules de plus en plus énergétiques. Et donc on a commencé à utiliser des projectiles qui sont des projectiles généralement quantiques, comme des électrons, à des énergies qui sont relativistes. Et donc à partir de ce moment-là, on s'est aperçu qu'il fallait vraiment mettre ensemble non seulement la mécanique quantique, mais la relativité. Et quelque part, la théorie quantique des champs est la fille de ces deux théories.
Oui, et ce qui est amusant en plus, c'est que quand on mélange la relativité et la théorie quantique, on obtient donc immédiatement la théorie des champs pour une première raison extrêmement simple, c'est que le nombre de particules, même si on arrive encore à définir les particules, comme je le disais tout à l'heure, ce nombre de particules, lui, n'est pas toujours le même. Et donc on ne peut plus écrire une équation, comme on appelait l'équation de Schrödinger initialement, qui est une équation qui indique l'évolution, entre guillemets, d'une particule, d'un état à une particule. On est obligé de considérer des superpositions d'états à 1, 2, 3, 4, 18, autant de particules que vous voulez. Et c'est en ce sens-là qu'on fait apparaître des propriétés extrêmement particulières, et donc on doit décrire la particule non plus simplement comme un objet en soi, mais comme un champ. Et ce qu'on verra, c'est une certaine représentation de ce champ. Et en plus, d'ailleurs, c'est tellement vrai que ce nombre de particules, non seulement il n'est pas constant, mais en plus il dépend de vous. C'est-à-dire que si on est par exemple soi-même en état d'accélération, ou si on est dans un champ gravitationnel très fort, alors on va mesurer un nombre de particules différent que si on n'était pas accéléré, par exemple. Donc c'est vraiment le côté champ appartient vraiment au fait que le nombre de particules n'est pas constant.
Il y a un cas où l'on voit à quel point les particules sont insaisissables, c'est celui du vide. Le vide, qui par définition est en état zéro particule. Le vide a des propriétés paradoxales en théorie quantique des champs. Pour le reportage du jour, vous êtes intéressée au vide quantique, Céline Lozen. Bonjour.
Bonjour Natacha.
Et vous êtes allée au laboratoire Kessler-Bessrer de Sorbonne Université, où on étudie l'interaction de la lumière avec ce vide quantique.
Oui, avec Valentina Parigi, qui est physicienne et qui s'intéresse au comportement de la lumière. Elle est portée par des questions autant empiriques que philosophiques, et ses expériences tentent de déceler les effets de la lumière dans le vide quantique. Car la lumière, qui est un champ électromagnétique, est aussi un flux de photons, dont l'interaction avec ce vide révèle des phénomènes étonnants. En salle de manip, sur la paillasse, on trouve un montage inextricable de lasers femtosecondes rouges et verts, des lentilles, des instruments reliés par des câbles, un environnement aux allures de garage qui contraste avec les phénomènes étudiés sur l'essence même de la lumière et de sa dualité.
On s'intéresse à étudier de plus proche ce qu'est cette lumière, mesurer son intensité ou peut-être un aspect un peu plus corpusculaire, donc les nombres des photons, mais les aspects qui sont très liés à ce qu'on appelle des champs électromagnétiques, notamment ce qu'on appelle l'amplitude et la phase d'un champ. Chaque champ électromagnétique oscille, et donc on essaie de voir l'amplitude de ces oscillations en référence donnée. En fait, on s'intéresse à voir les champs électromagnétiques, comment ils interagissent tout d'abord avec d'autres champs électromagnétiques. On fait interagir plusieurs champs électromagnétiques dans des cristaux monolinéaires où ils vont se mélanger et on va voir ce qu'on appelle l'optique non linéaire dans ces types de milieux.
On sent que ça chauffe puisque la température est plus élevée que dans
ça
les champs.
Alors là, ça chauffe parce qu'effectivement, on a pas mal d'instruments et des machines qui se trouvent là dedans.
Je vais vous demander de mettre. Alors,
ah oui, sur chaussures.
C'est ça. C'est parce qu'on essaie de faire entrer les moins de poussière possible.
Donc là, c'est intéressant parce que vous avez employé à la fois le terme de corpuscule et d'amplitude de champ. Et donc là, ça renvoie à cette sorte de dualité qu'on a à représenter non seulement la lumière, mais d'autres particules, parce qu'il s'agit aussi de... On parle d'ondes de matière, comme on peut parler d'ondes de lumière.
Exactement. Quand on se rapproche d'objets microscopiques, effectivement, qu'on rentre un peu dans un aspect de description quantique, on retrouve les deux aspects en même temps dans les mêmes objets, parce qu'effectivement, on retrouve des aspects des corpuscules et des aspects d'ondes. Ça ne veut pas dire qu'on dit que ce qu'on est en train de mesurer, c'est un corpuscule ou c'est une onde. En fait, on donne une description un peu plus complexe, mais selon comment on regarde, quelles propriétés on regarde de ces états de la matière ou de la lumière, on peut voir l'aspect onde ou corpuscule. Alors ici, ce qu'on va voir, c'est de la lumière qui est en certaines longueurs d'onde, donc ça veut dire une certaine couleur, qui va se transformer en une autre couleur. Et dans cet passage, par ces cristaux non linéaires, elle va avoir des propriétés quantiques bien définies. Donc ce qu'on, nous sommes intéressés à voir, ce qu'on appelle les vides comprimés. Donc en gros, dans cette...
Un vide comprimé, ça a l'air un peu paradoxal.
Ça a l'air un peu paradoxal. Donc qu'est-ce qu'on va comprimer de ces vides? En fait, on va comprimer les bruits. En fait, bah, déjà, l'état des vides, c'est pas rien. Ça veut dire qu'on a des ce qu'on appelle des fluctuations de champ, en fait. Et donc, les champs en moyenne est zéro, mais pas ces fluctuations. Donc, ça veut dire que de temps en temps, si on mesure instantanément les champs, on va avoir des valeurs différentes qui moyennent à zéro.
C'est assez incroyable, cette table optique. C'est illisible pour quelqu'un qui
ne manipule pas. C'est illisible pour presque tout le monde, sauf qui a placé effectivement les optiques sous la table optique. Alors, en fait, on a... Cette forêt d'optique, donc on a deux grandes tables optiques, donc on va dire qu'une grosse partie c'est occupée par des lasers. Nous on travaille avec ce qu'on appelle des lasers impulsionnels qui vont émettre des impulsions lumineuses tous les 6 nanosecondes. Et les restes en fait des optiques que vous allez avoir, c'est une grande partie des miroirs, en fait, qui sert pour renvoyer les faisceaux là où on veut les envoyer. Et vous avez des lentilles en fait qui vont focaliser les faisceaux. Vous avez alors, la partie des corps centrales de nos expériences, c'est les cristaux non linéaires qui sert effectivement à faire interagir ou à changer les propriétés de la lumière qui va les traverser. Les champs optiques, on utilise en fait pour les décrire ce qu'on appelle un oscillateur harmonique. Et l'oscillateur harmonique, quand il est quantique, donc ça veut dire que dans les cas de la lumière, on a un flux très, très bas, pas intense, on peut voir qu'il est composé par des paquets d'énergie. Donc ça veut dire que l'état d'énergie, il est discrétisé, donc on a des valeurs discrètes. Et donc ces valeurs discrètes, c'est ce qu'on appelle les photons, donc ce qu'on appelle les paquets d'ondes en fait. Et l'état des vides, c'est qu'il n'y a pas des photons. Les champs électriques en moyenne est zéro, mais si on les mesure instantanément, on peut avoir des valeurs négatives et positives avec une certaine variance qui vont s'émoyenner à zéro. Voilà, donc là, effectivement, ce qu'on a, c'est notre faisceau qui sort de notre laser rouge. Ces lasers rouges vont être envoyés dans un cristal non linéaire et vont être transformés en lumière bleue. Donc, on fait ce qu'on appelle les doublages des fréquences. Cette lumière bleue, ça va nous servir de pompage, effectivement, d'un autre cristal non linéaire qui va produire cet état des vides comprimés qui se trouve un peu plus par là. Donc, vous allez avoir qu'on focalise dans notre système, dans notre cristal. Mais là, on peut pas voir notre vide comprimé. Donc, on doit utiliser, effectivement, des détecteurs qui sont un peu plus par là, sont sensibles à un flux très bas et qui nous sert pour mesurer l'amplitude de la phase de champ. Donc, comment on mesure l'état du vide? Alors, ça suffit juste de faire rien rentrer dans un des deux entrées du bisplitter dans lesquels, en fait, du séparateur de faisceaux dans lesquels je fais rentrer mon état qu'on appelle d'oscillateur local dans la détection module.
Quelle satisfaction vous procure cette expérience quand on vient même vous poser des nouvelles questions au niveau fondamental sur la nature, enfin sur des questions physiques très profondes?
Tout d'abord, en fait, la mécanique quantique, c'est quelque chose qu'on va étudier en tant qu'étudiant à partir, par exemple, de la troisième année. Et on étudie plutôt des formules. On nous raconte qu'il y a des phénomènes comme les vides qui est comprimé et tout ça, qu'on a du mal à s'imaginer qu'est-ce que ça veut dire en concret. Et donc, c'est la sensation qu'on puisse toucher une réalité à laquelle, normalement, on n'a pas accès. Mais le fait qu'on puisse, effectivement, aller éprouver ça et toucher, entre guillemets, avec nos mains, c'est très satisfaisant, en fait. Ça donne de la réalité à les théories qu'on peut construire.
Merci Céline Lozen pour ce reportage et pour ce vide bien plein. Sébastien Descotes-Genoux, une réaction à ce qu'on vient d'entendre?
Oui, c'est ce qui est intéressant, c'est de penser qu'en fait, tous les phénomènes qui sont décrits dans ce reportage sont liés à la vision quantique de l'électrodynamique, donc ce qu'on appelle vraiment électrodynamique quantique, qui a été développée, comme on l'a évoqué tout à l'heure, dans les années 20 à 50, mais qui de fait était plutôt orientée sur la compréhension des atomes et du comportement des électrons autour des noyaux. Et De fait, quand on place cette théorie dans des environnements très très différents, on la défie quelque part, puisque c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de regarder de l'optique non linéaire, eh bien on s'aperçoit que là encore, elle est satisfaisante, elle répond bien aux attentes, et donc quelque part, cette notion de champ quantique qui peut sembler extrêmement étrange, bizarre et même un peu farfelue, de fait, elle est effectivement très très efficace à décrire un grand nombre de phénomènes de l'interaction entre la lumière et la matière.
Patrick Peter.
Oui, moi ce qui m'amusait aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle mentionnait la notion d'oscillateur harmonique, ce que nous, en fait, on appelle une particule. Un oscillateur harmonique, c'est essentiellement une des solutions, entre guillemets, les plus simples, pratiquement la seule solution sur laquelle on puisse réellement travailler. Un oscillateur harmonique, c'est une particule, c'est vraiment la même chose pour nous.
Alors si je comprends bien, tout au long de cette émission, on a évoqué cet aspect-là, déterminer si le réel est particule ou champ, tout ça, ça va dépendre de notre manière d'observer ou de conditionner l'expérience.
Alors, quelque part, à un certain niveau, c'est la manière, peut-être pas d'interpréter, parce qu'en fait, c'est toujours deux faces d'une même réalité. Mais par contre, un peu comme jadis avec la mécanique quantique, ce seront deux aspects différents dont on va faire l'expérience. En fait, un exemple de ça qu'on n'a pas évoqué, c'est les expériences qui ont permis de clore le modèle standard en découvrant le boson de Higgs, qui est une particule, mais qui en fait était... imaginez sur la base du fait que l'on savait qu'il devait exister un champ associé et que les propriétés de ce champ étaient responsables du fait que les différentes particules du modèle standard étaient massives. Donc quelque part, là encore, on a d'abord senti l'existence du champ avant d'être capable de fournir assez d'énergie pour l'exciter, créer une particule et l'observer en 2012.
On arrive à la fin de cette émission. On a vu tout au long de cette heure que ces développements théoriques et les expériences ouvrent toujours sur des nouveaux problèmes. Aujourd'hui, quel est le grand défi actuel de la physique, Patrick Peter?
Alors, un grand défi actuel serait d'aller au-delà justement de la théorie des champs, de la théorie quantique des champs, et d'aller pour y inclure la quatrième interaction dont on parlait tout à l'heure. On parlait des trois interactions qui sont parfaitement bien décrites par la mécanique quantique, par la théorie des champs, avec le boson de Higgs et ces choses-là. Et il faudrait maintenant réussir à inclure la gravitation dans l'affaire. Et ça, on n'y arrive pour le moment pas. L'illustration du fait qu'on n'y arrive pas vraiment, c'est qu'on a énormément de théories pour le faire. Donc, on a beaucoup de théories pour le faire, ce qui veut dire qu'on en a pas une seule. Vous voyez, la gravitation en mécanique classique, c'est la relativité générale. Il y a une théorie. On peut compliquer autant qu'on veut, mais il y a essentiellement une théorie. Au niveau quantique, il y a pas mal de formulations et pour l'instant, aucune d'elles ne fait l'unanimité.
Sébastien Descotes-Genoux.
Oui, effectivement, ça c'est un élément. Et en fait, ce qui permettra peut-être d'orienter pour voir s'il faut toujours utiliser cette notion de champ ou s'il faut la dépasser, c'est justement d'aller chercher des phénomènes plus énergétiques pour lesquels on va être capable de sonder la matière à des échelles plus petites pour peut-être découvrir des déviations par rapport à cette vision-là. Et ces énergies plus importantes, elles peuvent se trouver soit auprès d'accélérateurs de particules, soit dans des phénomènes violents, soit au début de l'univers, quand une énergie suffisante était présente pour peut-être mettre en œuvre une réalité en dessous de celle des champs quantiques qui serait peut-être plus fondamentale. Mais ça, évidemment, pour l'instant, nous n'avons pas d'idée sur ce que ça pourrait être.
Et le défi actuel en physique, développer aussi une théorie plus générale, la fameuse théorie du tout. Merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. C'était un plaisir. Il est temps de retrouver un autre physicien et un philosophe des sciences. C'est Étienne Klein et sa chronique « Le pourquoi du comment ».
Comment a-t-on su que les atomes, comme les cerises, contiennent un noyau? En 1909, Ernest Rutherford fait fonctionner le premier compteur permettant de détecter une à une les particules dites alpha. Grâce à cet appareil, il parvient à identifier la nature jusque-là inconnue de ces particules. Les particules alpha, écrit-il, sont des atomes d'hélium, ou pour être plus précis, une fois qu'elles ont perdu leur charge électrique positive, elles deviennent des atomes d'hélium. Fin de citation. Celui qu'on surnomme l'aigle de Manchester a alors l'étrange idée de bombarder de minces feuilles métalliques, d'or ou d'aluminium, avec des particules alpha. Il observe que l'image que les particules forment sur un écran disposé derrière les feuilles devient floue, comme si certaines particules avaient été déviées lors de leur passage au travers des feuilles. D'où pouvaient provenir ces déviations ? Était-elle l'effet cumulatif de multiples petites déviations s'ajoutant les unes aux autres, ou bien résultait-elle d'une déviation unique? Intrigué, Rutherford demande à l'un de ses étudiants Ernst Marzen, de regarder si quelques particules ne seraient pas déviées avec de très grands angles. Aux surprises, Marzen constate qu'une sur 10 000 environ rebondit sur la feuille métallique et que certaines particules font même carrément demi-tour. Stupéfait, a-t-on jamais vu une balle de fusil rebondir sur une feuille de papier ? Rutherford réfléchit longuement et arrive au début de l'année 1911 à une conclusion qu'il juge inéluctable. Pour qu'une particule alpha revienne en arrière, il faut qu'elle subisse une très grande poussée de la part d'un objet suffisamment massif, et cela au cours d'un choc unique. Car il est impossible de comprendre le phénomène par l'addition de plusieurs petites déviations, car dans ce cas, le nombre de particules déviées vers l'arrière serait beaucoup plus faible que celui qui a été mesuré. Rutherford comprend en somme qu'il existe des points durs, beaucoup plus petits que les atomes, tapis au sein même des atomes. L'atome ne peut donc être qu'un édifice composite, constitué d'une part d'un noyau très dense et d'autre part d'électrons qui tourbillonnent autour de lui. Rutherford comprend en outre que les noyaux des atomes portent tous une charge électrique positive. Dès lors, les résultats de son expérience deviennent faciles à interpréter. Les noyaux présents dans la feuille métallique repoussent rageusement les particules chargées positivement qui passent très près d'eux, mais laissent tranquilles celles qui passent au loin. Comme les particules alpha sont beaucoup plus petites que la distance qui sépare deux noyaux, la plupart des particules alpha traversent l'obstacle quasiment sans encombre, mais un petit nombre d'entre elles tombent sur un noyau et ricochent violemment sur lui. L'atome étant constitué d'un noyau et d'électrons, il n'est ni élémentaire ni indivisible, contrairement à ce que pensaient les philosophes grecs. Après 25 siècles d'attente, grâce à Rutherford, il a donc fini par s'émanciper de son étymologie. Les atomes n'étant pas insécables, ne méritent plus le nom d'atome. On peut les tailler en pièces au sens propre du terme. Par exemple, si on les chauffe ou si on les éclaire, il est possible de leur arracher un ou plusieurs électrons. Au terme de cet épluchage de leur périphérie, les atomes deviennent des ions, porteurs d'une charge électrique positive, puisqu'ils ont perdu des électrons de charge électrique négative. Retenez bien ce que je viens de vous dire là, cela nous sera très utile pour mieux comprendre ce qu'est la radioactivité.
Merci Étienne pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Mariam Ibrahim, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Garance Préma Agnolo, Céline Lausanne, Nafi Terrasse. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Dalia. Cette émission se podcast sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Souvenez-vous, rien n'est établi.